Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui à l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde actuellement, la chanteuse Aya Nakamura. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja, genre. En katana, baby, tu t'es ça. Elle a conquis le monde en quelques années et en cette fin de printemps 2023, Aya Nakamura démarre une tournée. Tête d'affiche de nombreux festivals, elle chantera dans les plus grandes salles de France jusqu'à l'Arena de Bercy où elle chantera pour la première fois de sa vie, trois soirs d'affilée. Quel est le parcours d'Aya Danyoko, devenue Aya Nakamura? Son enfance, sa famille, d'où vient son style unique et si particulier? Quelle femme se cache derrière l'artiste aujourd'hui puissante? Et comment expliquer son succès phénoménal? Eh bien, pour répondre à toutes ces question à mes côtés, Steven Bellery du service culture de la rédaction de RTL. Salut Steven.
Bonjour à tous.
Tu as eu l'occasion de rencontrer Aya Nakamura à plusieurs reprises ces quatre dernières années. Alors on va écouter de larges extraits de vos interviews ensemble. Tout d'abord Steven, Aya Nakamura occupe la scène depuis maintenant 8 ans.
Ouais, 8-9 ans si on considère sa première chanson Karma qui avait été dévoilée sur Facebook comme le point de départ de sa carrière, c'était en 2014. Elle fait vraiment en fait partie de cette génération internet qui s'est lancée seule. Elle a commencé en fait en écrivant des textes qu'elle posait sur des mélodies zouk qu'elle piquait sur YouTube sans vraiment se poser de questions si c'était légal ou pas. Voilà, elle allait aspirer des mélodies sur YouTube qu'elle aimait bien et elle faisait comme ça ses premiers titres, ses premières chansons. Elle va commencer à apparaître dans le milieu de la musique grâce à des rappeurs qui vont l'inviter à partager des duos avec elle. Je pense à Farabi ou à Gradure. Ça va l'identifier d'ailleurs un petit peu comme un sparadrap, comme une chanteuse urbaine, comme une chanteuse qui vient un peu du rap.
Ce qu'elle est pas, hein.
Absolument ouais. Pas. D'ailleurs, ça l'énerve quand vous lui dites que c'est une rappeuse ou qu'elle vient de l'urbain. Elle se considère pas comme telle et c'est pas du tout sa culture et la musique qui l'a fait vibrer. Elle, son ADN, c'est vraiment la musique africaine, la zouk love, l'afrobeat, le latino maintenant aussi. C'est sa grande force. Hein. C'est que personne, en fait, sur la scène francophone actuelle n'a réussi à s'emparer de ses rythmiques et en plus d'y mettre des textes extrêmement contemporains et qui parlent à la jeune génération.
Ouais, on va décortiquer tout ça. Alors depuis, on peut dire qu'elle est chanteuse professionnelle. Elle a publié 4 albums.
4 albums alors qu'elle a eu seulement 28 ans la semaine dernière. C'est déjà un très gros parcours. Elle affole surtout les compteurs, brise des records, ce qui est assez fou. Son catalogue de morceaux comptabilise 6 milliards de streams à ce jour. Une grande partie évidemment de streams viennent de l'étranger, c'est sa grande force. Ses clips cartonnent aussi également, ce qui fait d'elle aussi une femme d'image et c'est extrêmement important dans son parcours. 3 milliards 500 millions de vues sur YouTube depuis le début de sa carrière. Sur TikTok c'est pareil, le même engouement, y compris donc pour la très jeune génération, puisque TikTok c'est vraiment les 15-20 ans qui sont essentiellement sur cette plateforme. Ses chansons ont été utilisées déjà dans des millions de créations, comme on dit, mais elle a touché 50 milliards de vues. En fait, ces créations, on entendait des chansons d'Aya Nakamura. Ce qui me fait dire qu'avec Aya Nakamura, on est vraiment au-delà du phénomène. Oui. On est dans quelque chose qui est sociétal et qui est surtout global et mondial.
Alors tout ça drainé par les tubes. Dja Dja, le premier.
Qui cumule encore et encore des centaines de millions de streams. Le clip va bientôt dépasser le milliard de streams rien que tout seul sur YouTube, puisqu'il est à 920 millions de vues à l'heure où on parle. Copine en est à plus de 500 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est plus de 20 millions d'abonnés. Elle a 7 millions d'abonnés rien que sur YouTube. Et par exemple, son dernier album DNK, oui, qui est sorti donc fin janvier, qui est un album assez récent, il a déjà dépassé les 100 millions de streams rien que sur Spotify, ce qui montre un peu l'ampleur du phénomène. Elle n'est pas encore à 100 000 exemplaires vendus en France pour cet album. C'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui des gens qui écoutent Aya Nakamura ne sont pas en France.
Et n'achète pas forcément son album en physique dans
les
magasins.
C'est vrai que la génération et ceux qui l'écoutent essentiellement en streaming. Elle a 5 chansons qui sont dans le top 200 de l'export. C'est la seule artiste féminine et solo à faire ça. Et par exemple, son premier album a encore été acheté 125 000 fois l'an dernier. C'est-à-dire qu'il continue encore et encore de gagner des fans et à s'écouler.
C'est viral en fait. Et ça se propage et ça continue à vivre et à cumuler des records.
C'est pas éphémère en fait. Aya Nakamura, on pourrait croire que derrière le personnage, derrière la diva, derrière la poupée, ce cacherait un épiphénomène, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas, quand on regarde les chiffres.
Ouais, les chiffres sont phénoménaux. Une question tiens, qui me vient, d'où vient son pseudo Nakamura?
C'est vrai que c'est assez spécial.
Parce que Aya, c'est son vrai prénom.
Aya, c'est son vrai prénom. Ça vient en fait d'un personnage, d'une série télé qu'elle adorait, qui s'appelle Heroes, qui s'est terminée au début des années 2010. Et il y avait un personnage qui s'appelait Hiro Nakamura, qui était japonais. Son pouvoir, c'était de courber l'espace-temps dans cette série où il y avait beaucoup de gens qui avaient des super pouvoirs. Moi, je ne serais pas du tout étonné si dans le futur, Aya Nakamura Noir reprenait son vrai nom, qui est Danioko. Son dernier album est déjà un pas vers ça, puisqu'il s'appelait DNK, qui est un petit peu l'acronyme, un clin d'œil à Danioko, les trois consonnes de son nom de famille. Et je crois que sa musique étant de plus en plus personnelle, et je sentais dans nos dernières rencontres qu'elle était de moins en moins à l'aise avec ce pseudo qu'elle a peut-être choisi très jeune, et peut-être dont elle se sépare peut-être doucement.
On va l'écouter, Aya Nakamura. Tu as eu la chance de la rencontrer plusieurs fois depuis la sortie de son premier album, pour comprendre justement comment est née cette chanteuse, comment elle a façonné son univers musical. Il faut tout d'abord l'écouter parler de sa famille et de son enfance.
Oui, c'est vrai qu'elle est dans une grande famille. Ils sont cinq, avec des parents qui sont arrivés en France après sa naissance, puisqu'elle est née au Mali, en Afrique, en 1995. Elle m'avait raconté son enfance au cours d'une de nos rencontres.
Je suis née à Bamako, mais j'ai grandi à Paris. Mais je suis beaucoup allée en vacances au Mali, que ce soit à Bamako, à Kay, dans les villages, etc., de mon père, ma mère. Mais je pense que oui, aujourd'hui, si je n'avais pas été malienne, je n'aurais pas eu cette voix. Je pense que chaque artiste a son grain de voix. Et je pense que j'ai aussi cette touche afro qui fait que j'ai ce style de musique en plus du R&B. C'est juste un mix et ça donne ça. Bah après, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes racines. J'ai grandi avec ça. À la maison, il y a toujours de la musique africaine. Au mariage, c'est de la musique africaine. Dans les fêtes, enfin, dans les grands événements africains, c'est de la musique africaine en général. Ou même que ce soit même en France, hein, que ce soit en boîte ou partout en ce moment, je pense que la musique africaine ou que ce soit dans les chanteurs afro comme des Wizkid, Davido, ils ont pris tellement d'importance qu'ils arrivent à faire des feats avec des artistes américains. Moi, je pense que la musique africaine aussi, aujourd'hui, elle a dépassé beaucoup, beaucoup de frontières et qu'il n'y a plus de limites. Ouais, je pense que c'est important de l'assumer et de le revendiquer parce que moi je suis comme ça, j'assume, tu vois.
Vous êtes d'une famille de griots, je crois.
Ouais.
Ça veut dire que la musique, la poésie, l'écriture, vous avez grandi avec en fait.
Moi j'ai pas grandi avec l'écriture tout de suite. Au début, j'écoutais beaucoup ma mère chanter parce qu'elle était griotte. Je sais pas si elle fait toujours ça en cachette, mais mais voilà, ma mère elle était griotte, du coup moi j'allais beaucoup avec elle dans les mariages, accompagner mes sœurs et tout, du coup on entendait beaucoup les chants comme ça, et au fur et à mesure du temps, bah, ces mélodies-là sont rentrées dans ma tête. Et quand j'ai eu l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, à mettre des rimes, etc., chercher des rimes comme ça, quand je m'ennuyais, je faisais ça toute seule. Avec le temps, j'ai commencé à mettre des mélodies. Et ensuite, je faisais des petites vidéos de cover en anglais. J'essayais de comprendre l'anglais, des trucs de Frank Ocean, Aretha Franklin, Beyoncé et tout ça. Ils sont venus à Facebook à faire des vidéos, des reprises. Et j'ai sorti mon premier son, Karma.
Vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois.
Et si je n'avais pas été la petite fille qui a grandi en banlieue à Aulnay, bah, je ne serais pas Aya Nakamura. Ça, c'est sûr.
Aya Nakamura, ton micro RTL, Steven Bellery. Elle parle jamais de son papa ?
Jamais. C'est un sujet un petit peu tabou, chaque fois qu'on essaie de l'emmener vers cette thématique du père, de la construction aussi. Elle botte en touche. Elle aurait été retirée à ses parents à un moment de son adolescence et placée en foyer. Donc il y a eu aussi une période un peu trouble dans l'adolescence. Et son père, il était barman à Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport. Il est assez âgé puisqu'il est à la retraite aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu écouter sa musique, qui n'est jamais venu la voir sur scène. Je pense qu'il y a une forme de blessure, il y a quelque chose d'intime de très fort aussi de ce côté-là, puisque son regard lui importe. Elle dit que c'est le seul regard qui lui importe et qu'elle redoute aujourd'hui encore, alors que c'est devenue une femme puissante qui a gagné sa vie, qui a imposé un style. Il dit « Ouais, t'as bien réussi », lui a dit déjà ça. Mais c'est vrai qu'elle dit aussi que c'est un monsieur qui a grandi en Afrique, qui est assez âgé, qui n'a pas les mêmes références culturelles probablement, qui est peut-être dérangé par l'aspect sexy de sa musique, y compris de ses clips et de ce qu'elle est, puisqu'elle aime montrer sa chair et il y a des textes très charnel dans la musique d'Aya Nakamura, donc il y a quelque chose qui est assez, ça fait partie de sa part d'ombre en fait.
Elle a un sacré caractère, Aya Nakamura, elle a surgi dans le paysage musical sans que personne s'y attende, ça veut dire ça, ça veut dire qu'elle a su s'imposer et qu'elle a une volonté de faire.
C'est une immense détermination Aya Nakamura, elle en parlait, la voilà, gamine, elle se sentait déjà un petit peu différente, ouais. Elle grattait des carnets et des carnets de ce qui lui trottait dans la tête, de ses premières relations, de ses premiers émois amoureux, d'ailleurs c'est ce qui en a fait son premier disque, puisqu'il s'appelait Journal Intime. Et c'est quelqu'un qui a une incroyable force d'esprit. Quand on la rencontre, on comprend qu'elle se moque complètement du regard des autres, du regard des gens, du qu'en dira-t-on, qu'elle se fout des protocoles. Elle est extrêmement impressionnante, hein. Même pendant une interview, c'est quelqu'un qui en impose, elle a un vrai charisme, Aya. Elle peut vous clouer le bec quand vous posez une question qui peut la déranger. Je me souviens, sur son avant-dernier disque, il y avait une chanson qui parlait d'argent, de réussite, et donc j'ai essayé de l'amener là-dessus. Vous êtes millionnaire aujourd'hui, qu'est-ce que l'argent représente pour vous dans la réussite? Et j'ai compris que l'argent, c'était quelque chose dont elle ne voulait pas parler, alors qu'elle peut parler d'autres choses très intimes,
tabou,
de manière très très libre. Il faut aussi se remettre dans le contexte, on ne rend peut-être pas compte dans les clips, mais elle fait 1m75, Aya Nakamura, elle a toujours d'immenses talons, des tenues affriolantes, très colorées. Donc il y a aussi une forme de personnage qui est assez imposant, en fait. Et puis voilà, je crois que c'est quand même de famille, ce caractère chez les Danyoko, qui était au centre aussi de son dernier disque. On en avait parlé ensemble dans notre dernière rencontre.
On a des caractères bien trempés, il y a des gentils, il y a des méchants. Je fais partie des gentils ou des méchants, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, on est très sensibles. Je suis très enfantine, je n'ai pas de secret dans ma personnalité en fait. Et je dis un peu tout et des fois ce qu'il ne faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais, j'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer.
Vous avez conscience d'être une femme impressionnante?
Ouais, de plus en plus. Je sais pas, c'est quelque chose de positif. Parce que je vois qu'en général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes. Mais je suis comme vous, voilà. C'est quelque chose que j'essaie d'apprécier de plus en plus et de modeler à ma manière. Mais après, c'est pas de ma faute, moi. Après, si je suis grande, charismatique, que je suis belle, etc. Enfin, je peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand ils me voient. On va dire ça comme ça.
Est-ce que vous étiez comme ça, par exemple, adolescente? C'est quelque chose que vous avez toujours eu ou vous avez travaillé?
Bah après, quelque chose que j'ai toujours eu, je pense à l'adolescence peut-être, mais le caractère, j'ai toujours eu la même manière de penser. Parce que je sais que moi, quand j'étais petite, ma mère me dit « Mais pour qui tu te prends ?» Nanani, nanana. Mais ce n'était pas des caprices, c'était juste des fois dans ce que je disais, peut-être ça pouvait être dans les habits que je ne voulais pas, dans la manière de m'habiller. J'avais ce côté-là où je savais ce que je voulais de leader. Ça veut dire que bon, ma mère, je ne lui manquais pas de respect, mais je lui disais « Maman, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est ce truc, etc. » J'avais 8 ans, je savais déjà tout, quoi. Alors que bon, on a fallu du temps pour apprendre de la vie.
Est-ce que, Aya, vous avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire et aimée des gens?
Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense. Je pense que c'est ça. Sans filtre, très franche. Moi, je kiffe ma personnalité. Et on peut ne pas m'aimer, mais au moins, j'ai la mienne, quoi. Je trouve qu'on ne peut pas dire qu'Aya, c'est une artiste formatée, quoi.
Vous n'avez pas de manager depuis 8 ans, vous gérez toute seule votre carrière.
Ouais.
C'est aussi pour cette raison, c'est de gérer les choses en direct, de ne pas se diluer dans des intermédiaires, ce genre de choses.
Bah, ça me permet aussi, moi, de pas oublier pourquoi je fais ça, quoi, en fait. Après, il fallait que je me débrouille et j'ai réussi, hein.
Vous protégez beaucoup votre vie privée, vous ne courez pas les soirées parisiennes.
Non, mais je sors de temps en temps. Après, je ne sors pas dans les mêmes endroits que tout le monde, que tous les people, si c'est ça la question. Mais je vis quand même. Hein.
L'équilibre aussi entre la maman et puis la chanteuse, c'est important d'avoir réussi à le trouver pour vous?
Ouais, j'ai mis peut-être plusieurs mois, on va dire, à ne plus me sentir que mère, on va dire.
Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous êtes arrivé en retard à Bercy pour chanter avec Alishiakis parce que vous vous aviez promis à votre fille que vous passeriez à la kermesse de fin d'année?
Bah ouais, bah c'est sa première, je suis obligée. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Moi, je me souviens de ma première kermesse. Je vois aussi qu'elle se dit, putain, maman, elle était là, quoi. C'est important.
Donc maman, c'est votre premier job, c'est avant d'être chanteuse.
Ouais. Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment
on fait? Je suis pas très mytho. Aya Nakamura, jolie nana, les confidences de la chanteuse Aya Nakamura dans cet épisode de Focus. Elle est donc, Steven Bellery, son propre manager, et elle sait dire non à sa maison de disques, hein, par exemple.
Bah, par exemple, des choses très concrètes. Vu le statut qu'elle a aujourd'hui, elle pourrait prétendre à partager des duos avec des superstars de la scène latino-américaine, du R&B. Elle les envoie bouler dans 90% du temps et elle est capable de dire bah, « je veux faire une chanson avec telle personne ». Ouais, mais en fait, on ne sait pas qui c'est ta pote. Bah, en fait, non, elle a aussi cette volonté maintenant, aujourd'hui, de mettre en lumière des nouveaux artistes et des gens pour lesquels elle a un coup de cœur artistique, tout simplement.
Alors, son caractère transparaît dans sa musique, particulièrement dans ses paroles. Ses mots donnent un relief encore plus original à son style. Elle crée à Aya Nakamura des punchlines, des phrases choc, entêtantes. Elle sait s'approprier des expressions.
Ouais, c'est ce qui a fait son succès, en fait. À ses tout débuts, elle s'en est un petit peu éloignée, hein, faut le dire quand même, dans son dernier album DNK, elle y reviendra peut-être, mais plusieurs de ses paroles, en tout cas de l'album Nakamura, sont devenues des expressions, des punchlines qui sont maintenant quasi dans le langage courant. Je pense à « tu d'être ça »,« je suis pas ta catin », même le mot « dja dja », en « katchana baby », qui en fait sont des expressions qui mélangent beaucoup d'influences. Hein. C'est pas que de l'argot de banlieue, il y a aussi des mots qui viennent d'Afrique, il y a un mélange qui est très atypique, il y a une touche d'intimité, il y a des mots qui sont vraiment dans un argot très typique que d'une ville et qu'elle va comme ça, elle va l'entendre, elle va l'utiliser qu'avec deux, trois copines. C'est des expressions qu'elle a pu inventer également elle-même et ça a fait tout ça son succès puisqu'on s'est dit mais on n'a jamais entendu ce genre d'expression, on n'a jamais entendu ces mots, ils s'intègrent parfaitement dans ses chansons où elle peut mettre du français, de l'anglais et ça a fait du coup une écriture singulière et presque un style Nakamura.
Tu dis ça, ça veut dire tu l'as trop bien fait.
Tu l'as trop bien voilà. fait par
on
exemple.
On écoute Aya Nakamura décrypter sa manière d'écrire.
Pour moi c'est mon langage à moi, c'est super naturel et je me suis mis petit à petit à assumer ce langage-là parce qu'il n'est pas, c'est pas hyper facile, il a été jugé, certains ne comprennent pas. Et je pense que c'est une certaine manière de s'assumer entièrement.
D'où viennent ces mots, de votre esprit?
Non, ça vient surtout de, c'est de l'argot, ça vient surtout de mon quartier, ça vient de... Il y a plein de mots qui sont inventés dans les, qui viennent des banlieues, en fait, que certains jeunes connaissent, même hors banlieue, tu vois.
Comment vous écrivez d'ailleurs? C'est quelque chose d'assez instinctif, ça vient très très vite, comment ça se passe?
J'aime bien écrire comme ça, écrire comme si c'est pas moi qui écrivais le morceau, mais ce que je ressens en fait. J'écris vraiment quand ça me vient, comme un morceau comme Dja ou Copine, ou j'écris avec envie, mais j'écris souvent avec passion.
Vous allez parfois en studio avec une chanson qui n'est pas finie d'être écrite?
Mais qui n'est même pas écrite des fois. Bah oui. Des fois, j'écris en studio. Des fois, j'écris avant, parce que j'ai l'instru et que ça m'a inspiré un moment. Mais après, il y a d'autres fois aussi où je pose directement. Je vais en studio, je me dis, putain, ça se trouve, là, je vais rentrer chez moi, j'aurai rien du tout. C'est vraiment comment je vais écouter l'instru, si ça me parle ou pas, quoi.
Vous dites que vous chantez exactement comme vous parlez dans la vraie vie.
Ouais. Bah, je suis pas ton plan B, t'as maté le fessier. Genre, c'est une phrase que j'aurais pu dire en parlant, tu vois. Comme, il n'y a pas moyen, enfin, je sais pas, même dans les couplets. En fait, quand je dis ça, c'est parce qu'avant, quand j'écrivais des chansons, j'essayais d'écrire un minimum français. Et je modifiais beaucoup en disant, au lieu de dire « je vais », je pouvais dire « je vais ». Plein de trucs comme ça qui font que, en vrai, dans ma tête, pour moi, ça change. Et je me dis que cette manière d'écrire, elle est plus simple et elle me correspond plus. Je pense que c'est mieux, j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de jouer un rôle, que ce soit dans les interviews ou autre. Moi, je sais que quand un artiste n'écrit pas ses sons, dans les interviews, ça se voit souvent.
Il y a de l'argot, il y a des mots même vulgaires, on peut le dire.
Ouais.
Il y a du jargon, il y a aussi une énorme touche d'intimité. Comment vous avez trouvé l'équilibre entre tout ça? C'est quelque chose de très naturel aussi ou ça a été intellectualisé, vous y avez réfléchi?
Non, j'y ai pas réfléchi, mais après, c'est un truc que c'était voulu. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Quand j'écris, c'est comme si j'écrivais à quelqu'un que j'aime, comme si je me confiais à une amie. Moi, c'est vraiment tout ou rien. Quand j'aime bien une personne, bah, je lui raconte ma vie de cette manière-là. Voilà quoi.
Et un album, c'est comme un carnet intime, comme vos confidences.
Ouais. Ouais, je pense que c'est comme une séance chez le psy. Parce que je suis une personne qui a du mal à s'exprimer en général avec la parole, tout simplement. J'ai du mal à faire des discours, etc. Je suis un peu timide. Mais quand il s'agit de chanter, c'est plus pareil. C'est plus simple.
Ça, aujourd'hui, on le voit dans plein de stories Instagram. C'est la plus bonne de mes copines. C'est devenu une expression. Il y a air, il y a rien. C'est devenu une expression aujourd'hui que les jeunes utilisent. Ça, c'est vraiment un tour de force d'Aya Nakamura.
Signée Aya Nakamura. Elle chante l'amitié, donc dans cette chanson Copine,
beaucoup,
par exemple.
C'est les relations, en fait.
Mais elle chante aussi l'amour, essentiellement.
C'est essentiellement l'amour, l'amour et l'amour. Mais je dirais avec quelque chose d'important, un point de vue féminin. Elle le chante avec son point de vue et elle regarde, elle croque les hommes essentiellement. En leur disant, écoutez les mecs, le monde a changé quoi. On est un peu dans les années 2020, les femmes ont le pouvoir et nous aussi on a du caractère et on sait se faire respecter. C'est ça la musique d'Aya Nakamura, il y a l'amour charnel, il y a les ruptures, il y a la désillusion, il y a l'ego trip qui commence à faire partie de sa musique aussi. L'envie de réussite, d'indépendance, ça c'est des thématiques qui viennent souvent de la banlieue, qui sont propres au rap aussi. Et son dernier album était un petit peu plus sombre aussi puisqu'elle commençait à aller aussi sur des thématiques comme la déception, la trahison. On se souvient de ce procès où elle a été ces dernières semaines sous les feux de la rampe, puisqu'il y avait eu une altercation avec son dernier compagnon, père de sa deuxième fille, qui s'est fini donc devant les tribunaux. Ils ont été condamnés à une amende. Ça participe aussi d'une certaine manière à son personnage et à sa légende.
Elle sait faire des tubes, ça c'est une évidence, dansant, addictif. Musicalement, c'est assez intéressant parce qu'elle pioche partout. Elle mélange des genres musicaux qui, isolés, on pourrait dire qu'ils sont de niche. Ça donne un condensé rarement entendu dans sa musique, une virtuosité inédite.
Ouais, parce que c'est assez spectaculaire en fait de réussir à fusionner comme ça des styles très différents qui viennent de deux océans, puisqu'il y a quand même les rythmes qui viennent du Mali, et puis elle nous amène aux Antilles avec un zouk love extrêmement chaloupé. Elle commence à aller vers le latino, qui est une musique qui stream énormément, qui cartonne en Amérique latine, aux États-Unis, et qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc c'est aussi pour ça que je pense qu'elle réussit à streamer quand même énormément à l'étranger, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a tout ça chez elle. Il y a le groove du R&B aussi, qui est très américain. Il y a le caribéen. Et il y a quand même aussi un flow qui vient du rap. Beaucoup se disent ah, c'est une rappeuse. Pas du tout. Mais elle a quand même dans le flow, dans la diction, dans la manière de dire les mots. C'est la première musique à laquelle elle a été confrontée. Oui. Et donc, il y a ça quand même dans sa voix et dans sa manière de chanter.
Le studio est pour elle comme sa deuxième maison. C'est ce qu'elle vous a dit. On l'écoute, Aya Nakamura, nous parler de son rapport à la création en studio.
J'essaye de profiter et d'aimer chaque instant. Parce que le studio, c'est pas une heure, deux heures, ça peut être toute la nuit. Pour moi, ça doit être même limite ma maison, en fait. C'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les personnes qui soient là aussi soient autant à l'aise que moi.
Comment vous travaillez un peu comme une chef d'orchestre? Chacun a son rôle, il y a une forme d'instinct aussi très fort.
C'est ça, il y a l'instinct et il faut que chacun ait son rôle. Il n'y a pas de quelqu'un qui sert à rien dans le studio qui est là juste pour regarder. À part si c'est pour mettre de la bonne ambiance et aider les autres à fleurir leurs idées, oui. Mais si c'est juste pour être là et faire la statue, non, tu sors dehors. Il n'y a pas de recette surprise en disant « Ouais, bon, tu dois faire ce tempo-là, cette mélodie-là, et c'est bon, c'est un hit. » Parce que les auditeurs, ils ne sont pas teubés. Hein. Ils ressentent tout. Hein. Je pense qu'ils sont humains comme nous. Je ne me dis pas « Putain, il faut que je refasse, et c'est bon, ça va marcher. » C'est au feeling.
Et vous écoutez des choses de plus en plus différentes aussi, comme mélomane?
Ouais. J'écoute du Naija, j'écoute de l'afro, un peu de Carid maintenant, alors qu'avant j'écoutais pas du tout. Du rap un petit peu quand même.
Dans une chanson, vous dites « Il veut le corps à corps ». Il y a une dimension sensuelle dans votre musique.
Ouais.
Ça, vous l'aimez?
Ouais. Bah, c'est quelque chose que j'aime bien. Bah, je pense que toutes les femmes ont une part sensuelle et c'est bien aussi de l'aborder naturellement, sans tabou. Parce que moi, perso, j'ai pas de tabou.
Une bonne chanson d'Aya, ça doit faire chalouper, ça doit donner envie de bouger.
Pas forcément, mais bon, une bonne chanson d'Aya, c'est une chanson sincère, on va dire. Tu sens chaud, 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 chocolat. Chaud, chaud,
chocolat. Les confidences d'Aya Nakamura, artiste populaire donc qui bat des records, hein, on le rappelait en début de podcast, Steven Bellery, c'est devenu une ambassadrice à la française grâce à sa musique qui se propage dans le monde entier. Elle est surnommée la Queen par ses fans.
La reine, ouais.
Elle n'est pas très à l'aise avec ça. Elle ne veut pas en tout cas être érigée comme un symbole.
Comme un symbole, comme une ambassadrice. Elle commence à se faire à ce statut. Mais il y a aussi chez elle une volonté d'y aller doucement, de ne pas se cramer les ailes. Je pense par exemple au fait qu'elle n'a jamais fait de grande tournée, par exemple. Elle aurait pu faire une tournée de 30 zéniths hein, après le succès de Nakamura. Elle ne l'a pas fait. Là, elle a annoncé 3 Bercy, mais il n'y a pas non plus 40 dates de tournée annoncées derrière. Elle y va vraiment petit à petit, à son rythme à elle. Et c'est pour ça que j'avais voulu savoir si cette couronne de queen et de femme influente aujourd'hui, si elle était plutôt bien sur sa tête.
Je trouve qu'elle est pas mal. Elle est transparente, mais...
Elle est lourde à porter ou pas?
Au début, ouais, c'était dur. Parce que je l'ai trouvé, on me l'a mis comme ça, bam, et on m'a dit, oh, regarde, c'est pour toi. Et j'ai dit, bon, ok, mais pourquoi? Je comprends pas, etc. Ce n'est pas moi qui me suis donné ce nom de queen, en fait. C'est pas moi qui est venu dire, je suis Aya, je suis la queen, je suis la meilleure, et maintenant, écoutez-moi, quoi. Non, c'est vraiment les gens qui sont venus me dire, non, tu es la queen, et qui ont commencé à m'appeler comme ça avec le temps. Donc ouais, c'est sûr que pour moi, c'était un peu difficile.
Est-ce que, plus largement, être un symbole, c'est quelque chose qui est beau pour vous d'être devenu, pour des milliers de jeunes femmes, un modèle?
Malgré moi, on va dire symbole, malgré moi, alors, parce que je ne m'en suis pas forcément rendu compte.
Vous êtes un modèle de réussite, de méritocratie, de féminisme, ces choses-là aussi.
Oui, après j'ai grandi, enfin on va dire que j'ai évolué avec les mêmes personnes qui m'écoutent, on a à peu près le même âge et c'est assez fascinant de voir même des femmes plus âgées que moi me dire « Oh mais je t'écoute, tu me représentes et tout, j'aime trop » et c'est, je me dis « Waouh, ça veut dire que je représente vraiment, vraiment une icône » et on va dire que je suis assez fière de moi sur ce côté-là.
Vous êtes l'une des premières femmes noires à devenir une star en France dans la chanson. Je me disais peut-être que Bibi, dans les années 80, avait réussi à vendre autant de disques que vous. Est-ce que ça, c'est une fierté ?
C'est une fierté, mais c'est aussi grave. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce milieu-là. Avant moi, avant que je naisse, il y en a eu plein. Comment ça se fait que ce soit moi qui arrive et qui dise « Oh, je suis l'une des premières femmes noires à être en haut des charts et à vendre comme je le vends aujourd'hui ?» C'est spécial, moi, je trouve.
Est-ce que votre couleur de peau était un handicap parfois au début ? Vous disiez que, par exemple, on vous demandait de vous maquiller d'une certaine manière.
Moi, j'ai entendu ça, je devais avoir 19, 20 ans. On se remet en question et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a, un problème avec ma peau, je passe pas bien à la télé. Enfin, en vrai, j'ai pas été complexée, mais c'est comme si on voulait te complexer. On voulait te dire que ta peau n'est pas jolie, que si tu avais été plus claire, bah, tu serais plus jolie, tu aurais été mieux. Mais je me dis, mais non, moi je m'aime bien, quand je me vois, je vois pas de soucis, tu vois. Je me sens bien avec moi, avec moi-même. Et quand t'entends plein de trucs comme ça, bah, c'est sûr que ça te met un frein. Mais faut pas rester focus dessus, faut avancer. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui, la
dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Moi je veux la vie de rêve, elle y est proche, en tout cas elle mène bien sa barque. Je me débrouille toute seule, ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. C'est ce qu'elle dit aussi dans une autre chanson, Aya Nakamura. Voilà, je pense qu'on comprend mieux l'artiste et le phénomène qui l'entoure. Merci Steven Bellery pour ces larges extraits d'interview avec ce personnage captivant qu'est Aya Nakamura. Et donc on va la découvrir sur scène à partir de fin mai pour 3 Bercy notamment, 3 soirs d'affilée.
Est-ce
remplis
que
en quelques heures.
Ce sera pas trop grand pour elle, ça sera tout le débat. Même pas quelques heures, elle les a remplis en 15 minutes chaque fois que c'était mis en vente. Et ça avait même fait un mini buzz sur Internet en se disant que le Stade de France, ça ne l'intéressait pas. Voilà, elle est capable de ça. Elle veut rester dans des arènes, je pense, à taille humaine quand même.
Merci Steven, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.